Un court report du Brexit, pourquoi pas, mais sous conditions, c'est ce que vient de répondre le président du Conseil européen à Theresa May. Analyse d'Angélique Bouin dans un instant. Le tribunal pénal international de l'ONU durcit la peine de Radovan Karadzic. En appel, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie est condamné à la prison à vie. 6 jours après le passage du cyclone Idai, les secours sont dépassés au Mozambique. Des milliers de personnes sont toujours bloquées sur les toits ou dans les arbres. Nous joindrons le journaliste Adrien Barbier à Béra. Centre Zara France et 4 autres associations d'obédience chiite vont être dissoutes. Le ministère de l'Intérieur les accuse d'avoir légitimé le djihad armé de façon régulière. Explication de Maxime Fayol. L'Union européenne ne répond pas favorablement à la demande de Theresa May. La première ministre britannique réclamait un report du Brexit au 30 juin prochain, mais cette date arrive tout juste après les élections européennes, ce qui ne convient pas du tout à ses partenaires. Un report plus court est possible, lui répond Donald Tusk, le président du Conseil européen, à condition que la Chambre des communes approuve rapidement l'accord de sortie que Londres et Bruxelles ont conclu, Angélique Bouin.
La seule option sur la table pour éviter le no deal serait désormais que Theresa May arrive à faire voter par son Parlement l'accord de retrait sous 8 jours. On y croit peu ici, mais la réponse des Européens à Londres est claire. Si tel est le cas, alors ils lui accorderont le délai technique nécessaire pour une ratification dans les normes. On parle de quelques semaines. Mais s'il y avait un troisième vote négatif, l'hypothèse d'une sortie désordonnée reviendrait donc en force. Selon une source européenne, il faudrait sans doute organiser un sommet extraordinaire la semaine prochaine en urgence pour discuter des mesures à prendre et éviter le chaos redouté. Une troisième option est sur la table, un report long. Si la première ministre britannique, qui y est fermement opposée, changeait d'avis à l'approche du 29 mars, alors cet hypothétique sommet servirait à en discuter. Mais sur le sujet, les 27 sont très divisés. Côté français, on sent une envie de plus en plus affichée de tourner la page de ce feuilleton qui risque de polluer la campagne des élections européennes. Et la perspective d'un no deal n'est plus dramatisée comme avant. En Allemagne, en revanche, la chancelière Angela Merkel répétait encore hier qu'elle se battrait jusqu'au bout pour l'éviter. Les échanges demain seront sans doute intenses sur le sujet autour de la table du Conseil, mais aucune décision ne devrait être prise avant l'éventuel vote à la Chambre.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. À La Haye, Radovan Karadzic a vu sa peine alourdie en appel et transformée en prison à vie. En 2016, en première instance, l'ancien président de la République des Serbes de Bosnie avait été condamné à 40 ans de réclusion pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les atrocités commises en Bosnie à l'encontre des Bosniaques et des Croates entre 1991 et 1995. Les précisions de Pierre Benazet.
Les juges de La Haye ont abondé dans le sens du procureur pour qui le jugement en première instance de Radovan Karadzic était trop clément. Les 5 juges de la cour d'appel ont affirmé que la peine de 40 ans en première instance était une erreur d'appréciation manifeste, déraisonnable et injuste, puisqu'il s'agit des crimes les plus graves et les plus importants jamais jugés par le TPI, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est d'autant plus vrai, selon la cour d'appel, que 4 accusés ont été condamnés à la perpétuité par le TPI, alors qu'ils n'étaient condamnés que pour 1 des 4 principaux motifs d'accusation qui pesait à l'encontre de Radovan Karadzic. En prison depuis 2008 à Skevdang, près de La Haye, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie est donc condamné pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est à la fois pour les 44 mois du siège de Sarajevo, pour la prise en otage de personnel de l'ONU utilisé comme bouclier humain pour éviter les bombardements de l'OTAN, et surtout pour le génocide de Srebrenica, où plus de 8000 Bosniaques, hommes et garçons, ont été assassinés à l'été 1995. Pour les juges de La Haye, Radovan Karadzic, en tant que président de la République serbe de Bosnie, portait la responsabilité principale de ces atrocités.
Pour la 3e fois en moins de 2 ans, la Commission européenne inflige une forte amende à Google. 1,490 milliards d'euros, c'est la somme dont devra s'acquitter le géant américain de l'Internet pour pratiques anticoncurrentielles dans l'Union européenne. Cette fois, c'est le comportement d'AdSense, une régie publicitaire de Google, qui est en cause. Cette nouvelle amende représente 1,29% du chiffre d'affaires 2018 de Google. Pas de quoi mettre en danger le géant du web, qui s'est lancé un nouveau défi, révolutionner le monde du jeu vidéo. Google vient en effet d'annoncer le lancement d'une plateforme permettant de jouer en streaming. Bonsoir, Roméo Van Maastricht.
Bonsoir.
Qu'est-ce que ça va changer ?
Imaginez un Netflix du jeu vidéo, une plateforme permettant de jouer directement en ligne à la fois sur une télé, un ordinateur, puis sur un téléphone. Stadia, c'est le nom de ce service, permettra un accès instantané à tout un catalogue de jeux vidéo. C'est-à-dire que l'on pourra jouer aux toilettes, au lit, dans une chambre d'hôtel, dans la rue et bien d'autres endroits. Le jeu est stocké en ligne sur Internet, un espace dans lequel le joueur pourra faire son marché et choisir le jeu de son choix pour en profiter instantanément. Cela demande évidemment de gros moyens technologiques, mais pour Olivier Avaro, président de Blacknut, une entreprise qui propose le même service en France, ce n'est pas un obstacle pour Google.
Google est complètement capable de maîtriser ces technologies. Ils ont des data centers qui permettent de faire ça. Ils ont de la très très bonne connectivité. Par contre, au niveau du service, de l'offre, du business model, je pense que là, il y a effectivement tout un tas de choses que Google n'a pas encore démontré. Donc, il y a encore des freins.
Effectivement, on ne sait rien du prix, du modèle économique ou du catalogue de jeux de Stadia. Mais là où il est vraiment révolutionnaire, c'est qu'il n'y aura plus besoin de console ou de CD pour jouer. D'ailleurs, certains prophétisent la fin des consoles de jeux physiques. Les PlayStation, Xbox et consorts. Déjà ce matin, à la bourse de Tokyo, les actions de Sony et Nintendo dévissaient chacune d'environ 4%.
C'est un bouleversement dans l'industrie américaine du divertissement. Après 17 mois de négociations, Disney a finalement racheté aujourd'hui la Century Fox, l'un des plus anciens et des plus prestigieux studios d'Hollywood, montant du rachat un peu plus de 71 milliards de dollars. Un investissement énorme, mais qui permet au groupe Disney de mettre la main sur un catalogue impressionnant, ainsi que sur plusieurs chaînes de télévision. C'est évidemment un choix stratégique pour les années à venir, Grégory Phillips.
La souris a donc avalé le renard et depuis minuit 2 heures de Los Angeles, ce générique qui a fait rêver des générations de cinéphiles appartient donc au groupe Disney qui possède aussi celui-là. L'investissement est énorme, 71,3 milliards de dollars. Disney était en concurrence avec un autre géant américain, le câble opérateur Comcast, mais qui au bout d'un an et demi a perdu ce bras de fer. En rachetant l'un des studios de l'âge d'or hollywoodien, Disney met la main sur un catalogue de séries et de films impressionnants, les grands classiques comme Cléopâtre, Titanic ou encore le Avatar de James Cameron, mais aussi les premiers Star Wars, la série des Simpsons. Le groupe dirigé par Bob Iger ajoute aussi à sa collection de personnages Marvel les X-Men et les 4 Fantastiques. Dans le lot, il y a aussi plusieurs chaînes de télé comme FX ou National Geographic. En revanche, Fox News reste la propriété de Rupert Murdoch. Avec ce nouveau catalogue, la Walt Disney Company renforce encore son offre de contenu alors que le groupe s'apprête à lancer sa propre plateforme de vidéo en ligne destinée à concurrencer Netflix.
Grégory Phillips à Washington. Au sujet du cyclone Idai qui a balayé l'Afrique australe la semaine dernière, les Nations Unies parlent d'un désastre majeur et l'ONG CARE du cyclone le plus meurtrier dans la région à ce jour. 300 morts ont été recensés pour l'instant, mais c'est un bilan qui devrait rapidement s'aggraver et des centaines de milliers de personnes sont toujours bloquées dans des zones inondées. Au Mozambique, le président a décrété 3 jours de deuil national. Les ONG tentent de porter secours aux personnes réfugiées sur les toits ou sur des arbres, mais la situation reste extrêmement compliquée. Valérie Crova a pu joindre Adrien Barbier, c'est le seul journaliste français à Beira, la grande ville du centre du Mozambique, détruite à 90% selon la Croix-Rouge. Il se trouve en ce moment à l'aéroport de Beira où les ONG ont établi leur quartier général. Je vous propose d'écouter son témoignage.
L'œil du cyclone n'est passé qu'à quelques kilomètres du centre-ville, ce qui explique pourquoi la ville a été autant touchée. Et effectivement, la première chose que l'on voit lorsqu'on se rend en ville, ce sont ces monticules sur le bord des routes, ces amas de branches, d'arbres détruits, de tôles, d'objets en tout genre, qui montrent que véritablement l'impact du cyclone a été très important. Entre jeudi et dimanche dernier, Beira a été complètement coupée du monde. Les routes qui mènent à cette ville ont et sont toujours bloquées par la montée des eaux et ont été en partie détruites. Parfois, les avions ne peuvent pas se poser. La tour de contrôle a été particulièrement endommagée, donc ça complique vraiment le travail des pilotes. Ce qui s'est passé lundi, c'est que les vols de reconnaissance des humanitaires ont réussi à percevoir qu'il y avait un drame qui se déroulait à quelques kilomètres seulement donc de Beira. C'est des zones rurales qui sont entièrement recouvertes d'eau. Tout le monde reste quand même prudent sur les chiffres, mais il est certain qu'on va retrouver des corps. À chaque fois que je me déplace à l'extérieur, à la rencontre des sinistrés, tout le monde évoque des victimes dans leur entourage. Donc on est quand même face à une situation très sérieuse.
Adrien Barbier, journaliste français actuellement au Mozambique. Même si le processus de dialogue est actuellement bloqué et même si la Corée du Nord peut à tout instant lancer de nouvelles provocations, le rapprochement des deux Corées, initié l'an dernier, est tout de même réel. Et cette détente a des effets tangibles qu'a pu constater notre correspondant en Corée du Sud. C'est ainsi qu'à Séoul se tient actuellement une exposition inimaginable il y a encore un an. Elle s'intéresse à l'aspect graphique des emballages de produits de la vie quotidienne venus de Corée du Nord, des produits qui révèlent des espaces de créativité insoupçonnés dans un pays où l'art doit être au service du régime. Le reportage de Frédéric Ojardias à Séoul.
Des posters de propagande, mais aussi des tickets, des paquets de cigarettes, des boîtes de conserve ou de chocolat. Ce sont 200 objets, parfois très simples, que présente à Séoul Nicholas Bonner. Ce réalisateur britannique a signé plusieurs documentaires sur la Corée du Nord.
Il n'y a pas d'art abstrait en Corée du Nord. Ce n'est pas autorisé, tout doit répondre aux critères du réalisme socialiste. Mais je me souviens de ce paquet de sucreries. On y voyait sur l'emballage des motifs réguliers d'un design très abstrait. Mon guide m'a dit que c'était en fait les lignes de sucre colorées sur le bonbon. C'était plutôt joli. Si l'art de propagande n'a en général aucune personnalité, le graphisme des produits éphémères est différent. Même s'il est lui aussi sous contrôle, bien sûr, tout doit être validé par les organisations de l'État. Et pourtant, ces graphismes ont quelque chose de très humain, sans doute parce que ce sont des produits faits pour le peuple.
L'exposition s'intitule « Made in Joseon », fabriqué en Corée du Nord. Elle aurait été impossible à organiser à Séoul avant la détente initiée l'année dernière. Même si la Corée du Sud est une démocratie, tout ce qui vient du Nord est contrôlé de très près, voire interdit. Les Sud-Coréens n'ont en général jamais accès à des produits nord-coréens, ce qui rend l'événement d'autant plus significatif.
La plupart des visiteurs ici ont laissé des commentaires qui sont remarquables. Des jeunes disent que ça leur a offert un aperçu inédit sur la Corée du Nord. Quand j'ai montré ses réactions en ligne à une amie nord-coréenne, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « c'est si bien, c'est la première fois que je peux voir une sorte de connexion émotionnelle entre les gens des deux Corées ». Cette exposition aide ainsi à rappeler que de l'autre côté de la frontière, il y a aussi des gens qui vivent et ce n'est pas qu'un système. Il n'y a encore pas très longtemps, les Coréens du Nord et du Sud se représentaient les uns et les autres comme des diables avec des cornes sur la tête. Les choses s'améliorent peu à peu et j'espère que ça va continuer.
Au Nord, le régime bannit tout ce qui vient du Sud, ce qui n'empêche pas les Nord-Coréens d'échanger sous le manteau les très populaires feuilletons et biens de consommation sud-coréens. Les emballages nord-coréens les plus récents ressemblent d'ailleurs à ceux du Sud et témoignent de cette souterraine et puissante influence sud-coréenne.
Frédéric Ojardias à Séoul. Quatre associations accusées de faire la promotion du djihad armé vont être dissoutes. La proposition a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il vise des structures basées à Grande-Synthe, dans le Nord. Et parmi elles, on retrouve une structure connue des services de police et de renseignement, le centre Zara France. Ces quatre associations sont soupçonnées d'être très proches de plusieurs organisations terroristes, comme le Hamas ou le Hezbollah, Maxime Fayol.
Et oui, le gouvernement leur reproche en effet leur légitimation d'une guerre sainte, que ce soit par les prêches dispensées ou bien par des écrits mis à disposition des fidèles. C'est ce qu'a expliqué à la mi-journée le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.
Ce sont des associations ouvertement antisémites et dangereuses. Pour être clair, ce sont des associations qui font la promotion ou l'apologie au choix du djihad, du terrorisme, des thèses antisémites les plus crasses et donc qui vont être dissoutes.
À noter que depuis 2016, 6 associations ont déjà été dissoutes pour les mêmes motifs sur la base de documents publiés sur Internet, de prêches ou encore de notes blanches des services de renseignement. Alors ici, la structure principale de ces associations dissoutes, c'est le centre Zara France, qui est dans l'œil des services de l'État depuis déjà plusieurs mois. Elle a notamment été perquisitionnée en octobre dernier après la tentative d'attentat avorté contre l'opposition iranienne à Villepinte. À l'époque, 200 policiers ont été mobilisés, des armes avaient été découvertes découverte des armes détenues illégalement par le fils du fondateur du centre Zara. Il avait ensuite été condamné à 6 mois de prison ferme et la préfecture du Nord avait demandé dans la foulée la fermeture du centre pour 6 mois. Ce fondateur de Zara France, c'est Yahya Gwasmi. Il a 70 ans, il est né en Algérie. Il a entre autres fondé le parti antisioniste il y a tout juste 10 ans, un mouvement dont la dissolution a aussi été demandée par le ministre de l'Intérieur. Un parti qui avait participé aux élections européennes en 2009 avec comme candidat Dieudonné ou encore Alain Soral. La liste avait alors réuni 1,3% des voix.
Maxime Fayol, face aux débordements constatés lors des manifestations des Gilets jaunes, la mission antiterroriste militaire Sentinelle va être mobilisée de manière renforcée samedi. L'objectif étant de protéger des bâtiments officiels et autres points fixes. Par ailleurs, le maire Les Républicains de Nice, Christian Estrosi, a demandé l'interdiction de la manifestation des Gilets jaunes prévue dans sa ville samedi. Le rétropédalage d'Agnès Buzyn n'avait pas suffi à calmer la polémique. Lors des questions à l'Assemblée cet après-midi, le Premier ministre est donc revenu sur le débat sur l'âge de départ à la retraite relancé depuis dimanche. Il n'est pas question, assure Édouard Philippe, de modifier l'âge légal de départ à la retraite dans le cadre de la réforme qui sera dévoilée cette année. Mais, car il y a un mais, le chef du gouvernement juge normal de se poser la question d'un allongement de la durée du travail. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Le sujet n'est donc que provisoirement clos.
Oui, même si cet âge, 62 ans, est devenu une sorte de totem à la fois pour les partenaires sociaux et pour l'ordonnateur de la réforme du système des retraites, Jean-Paul Delevoye, étant entendu qu'il donne le signal de la possibilité de partir à la retraite, mais que tout est fait pour inciter les seniors à travailler plus longtemps. On rappelle que l'âge du taux plein automatique pour la retraite de base, c'est 67 ans. Reste qu'augmenter la durée de cotisation, c'est le moyen le plus simple pour réduire le déficit des caisses de retraite, pour absorber l'arrivée massive des nouveaux retraités sur le marché et pour éviter d'augmenter le montant des cotisations retraite au moment où toute hausse des prélèvements risquerait de déclencher la colère populaire. Alors, qu'en sera-t-il en 2025 lorsque le nouveau système de retraite à points sera mis en place? Eh bien, nul doute que la décision d'arrêter le travail sera toujours liée au montant de la pension de retraite acquise. Il suffira alors de diminuer le taux du point retraite, c'est-à-dire sa valeur, pour inciter à travailler plus longtemps. Sauf que repousser l'âge du départ à la retraite ne réglera pas le problème des seniors au chômage, il devrait même l'aggraver. Or, en France, ce taux est plus élevé que la moyenne européenne, notamment parce que les managers ont une mauvaise image des salariés de plus de 55 ans. C'est pour cette raison que l'un des volets de la future réforme des retraites donc devrait concerner la lutte contre les stéréotypes, la prévention au travail et l'aménagement des postes et des conditions de travail à partir d'un certain âge, des prérequis essentiels si l'on souhaite que les seniors puissent travailler plus longtemps à défaut de le vouloir.
Anne-Laure Chouin. Au procès de Bernard Tapie pour escroquerie, c'est un autre prévenu qui était auditionné aujourd'hui. Le patron d'Orange, Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Il est soupçonné d'avoir caché à la ministre de l'économie d'alors certaines informations qui auraient pu remettre en question l'arbitrage soldant le litige entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
En tant que directeur de cabinet, je n'avais aucun pouvoir décisionnel. Stéphane Richard le dit et le redit tout au long de cette intervention visiblement très préparée. Crâne dégarni, petite lunette ronde d'écailles noires, il commence par le récit de son parcours professionnel, voix posée, discours structuré et synthétique. HEC, ENA, passage par le privé, avant de rejoindre le cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie et des finances, qui va céder son poste à Christine Lagarde au lendemain des législatives de 2007. Et il se souvient avec précision de ses premiers échanges avec elle sur le sujet lors de vacances écourtées du mois d'août en raison de la crise des subprimes aux États-Unis. Madame Lagarde a toujours été en total accord avec l'idée d'arbitrage, précise Stéphane Richard, et Nicolas Sarkozy interroge la présidente. Stéphane Richard prend son temps, que les choses soient claires, le président de la République ne m'a jamais parlé de ce dossier, ni avant ni après, il détache les syllabes, jamais. Qu'il y ait eu un accord, une lecture politique pour que l'arbitrage soit une opportunité, aucun doute là-dessus, poursuit le prévenu, mais il conteste toute instruction qui aurait pu venir de sa part et c'est bien là le cœur du dossier. En réalité, il y avait beaucoup d'agacement, une exaspération partagée à tous les étages à Bercy. Le Crédit Lyonnais, c'est le plus grand sinistre bancaire de l'après-guerre, s'indigne le patron d'Orange. Il a coûté 20 milliards d'euros au trésor public. Et moi, en tant que contribuable, ajoute Stéphane Richard, je serais intéressé de savoir combien le consortium de réalisation a payé de frais de défense dans ce dossier. Moi aussi, lance Hervé Temim, l'avocat de Bernard Tapie, et sur sa chaise, l'homme d'affaires qui n'a pas perdu une miette des débats conclus par un haussement d'épaule et son mot préféré, et voilà.
Florence Turme au Palais de Justice de Paris. Demain jeudi, des nuages en matinée de la Bretagne en Haute-France et toute la journée près de la Manche. Ailleurs, le temps sera calme et ensoleillé. Minimale comprise entre moins 2 et 7 degrés. Les gelées seront fréquentes le matin du nord-est au massif central. Les maximales poursuivront leur hausse avec 13 à 18 degrés sur l'Hexagone, jusqu'à 20 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.